Vous écoutez IDFM, il est midi. Chères auditrices et chers auditeurs, je vous souhaite la bienvenue sur IDFM, la radio qui nous rassemble, pour votre émission Les Passages. Entendez-le comme vous le voulez, votre rendez-vous mensuel santé et sérénité. Nous traitons tous les premiers samedis de chaque mois à midi de sujets inspirants qui se proposent de nous éclairer sur notre conscience à être à soi et au monde. Je m'appelle Céline Dupuis. En tant que thérapeute par le yoga et énergéticienne par le soin de la trame, je suis très intéressée par toutes les approches thérapeutiques de mes collègues. Aujourd'hui, je reçois Agnès Olivier, kinésithérapeute, fasciathérapeute et professeur de gymnastique sensorielle. Pour définir en une phrase son accompagnement, elle écrit sur son site internet « Un chemin vers soi en alliance avec son corps ». Souvent, nous anesthésions le corps pour ne pas ressentir. Mon professeur de philosophie, Denis Marquet, dit « Le courage est de ressentir ». Le sens littéral du mot « courage » est le fait de mettre le cœur en action. Et Goethe nous dit « La voie radicale pour saisir l'être, c'est le corps ». Est-ce à dire que pour faire chemin vers soi, il faut ressentir ? Comment faire pour ressentir ? Ralentir, est-ce une voie pour ressentir ? Est-ce que ressentir permet de saisir l'être ? Qu'est-ce que cela apporte de faire un chemin vers soi ? Saisir l'être permet-il de sortir de la souffrance ? C'est sur ces sujets que nous échangeons aujourd'hui avec Agnès Olivier. Bonjour Agnès.
Bonjour Céline, comment vas-tu ?
Très bien, merci. Et toi ?
Eh bien, je suis hyper heureuse d'être avec toi et de pouvoir parler de ces magnifiques sujets que tu as parfaitement introduits.
Oui, j'ai une gratitude infinie que tu aies accepté mon invitation, vraiment, parce que je trouve que c'est essentiel de parler de ça, vraiment. Ralentir pour ressentir. Mais déjà, j'ai envie de te poser une question, parce que tu sais, cette émission s'appelle « Les Passages ». Et je me suis dit, mais quel a été son passage à Agnès ? Parce que tu es kinésithérapeute à la base, c'est bien ça ?
Oui, tout à fait, oui.
Et pourquoi as-tu développé ta pratique ? Qu'est-ce qui s'est passé ?
Alors en fait, moi je me suis rendu compte que la kinésithérapie était très intéressante, mais elle permettait de mettre en mouvement le corps pour lui redonner une possibilité de fonction. Mais depuis très jeune, en fait, pour moi, le corps et l'esprit sont reliés. Et il n'y avait pas cette dimension-là dans la kinésithérapie, en tout cas telle qu'on l'apprend, en fait. Et très tôt, en fait, même pendant mes études, je m'étais dit « je vais chercher autre chose après ». J'ai la chance en fait que ma mère était psychologue, donc alors elle très analytique, le corps n'était pas du tout présent, mais j'ai toujours baigné dans un monde où on pouvait aller chercher autre chose, on pouvait se faire accompagner, c'est pas du tout un tabou en fait.
Oui.
Elle s'était formée à l'aptonomie par exemple, qui est aussi une méthode très intéressante de ressenti et de pour se relier à, bah, par exemple, c'est très intéressant pendant les préparations d'accouchement, mais même en psychologie, ça peut être intéressant. Et donc, je m'étais toujours dit, il manque quelque chose. Et moi, je n'avais pas vraiment, en fait, un rapport à ma perception très développé. J'étais assez coupée de ça. Donc, il a fallu que je cherche quelque chose qui m'aide à me relier à ça. Au début, pour mes patients, disons comme ça, ça va m'aider à mieux sentir ce qui se passe pour eux. Mais toujours aussi pour moi, pour mieux percevoir. Et j'ai eu une joie immense à trouver la fasciathérapie pendant que je cherchais. Au début, j'avais pensé à l'ostéopathie, comme beaucoup de professionnels, beaucoup de kinés font de l'ostéopathie. Puis à ce moment-là, après l'étude de kiné, je ne voyais pas repartir sur 5 ans d'études. C'est comme ça. Et la fascia est très proche de l'ostéopathie, mais tissulaire. Et en fait, ça m'a complètement séduit. Donc, je suis rentrée dans ce cursus-là.
Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus qu'est-ce que la fasciathérapie, justement ?
Oui, bien sûr.
Merci.
Alors, la fasciathérapie s'adresse aux fascias. Les fascias, c'est des tissus conjonctifs, c'est des secondes peaux. En fait, quand on regarde la peau, on se rend compte que c'est un maillage de fibres, un maillage de tissus entrelacés qui assure une bonne répartition à la fois de volume total, mais aussi les échanges entre le milieu intérieur et extérieur. Et ces tissus, en fait, c'est comme si on avait plusieurs couches de peau dans le corps, autour des viscères. Ça permet que chaque zone du corps soit bien organisée, bien à sa place. Et ce fascia, il est étudié en fait depuis pas si longtemps que ça. Il est étudié finalement, on va dire principalement depuis les années 2000, donc c'est quand même très récent dans l'étude de l'anatomie.
Ah oui, c'est très jeune.
Et c'est parce que c'est un tissu qui a des propriétés in vivo, dans le vivant. Et c'est parce qu'on a pu mettre des caméras dans le corps, et donc grâce aux nouvelles technologies, enfin à la miniaturisation, qu'on s'est rendu compte en fait à quel point il est extraordinaire. Alors après, moi je suis pas une experte des recherches au fascia, je m'en étais intéressée un peu du temps de mes études, mais il y a plein de manières de le travailler et beaucoup d'approches manuelles se référencent maintenant au fascia en disant bah oui, c'est grâce à lui que tel et tel effet fonctionne. La fasciathérapie que j'ai appris, c'est un kiné ostéopathe qui a senti qu'en fait, donc l'ostéopathie parle déjà des fascias. Et donc ça date de manière expérimentale. Ils avaient commencé à se dire, tiens, quand on sent ça, c'est certainement ce tissu-là qui est en jeu, quoi. Mais cet ostéopathe, il allait plus loin, en fait, dans son étude du fascia. Et il a avancé vers vraiment le déploiement de la perception. Il s'est rendu compte que quand on touche le corps d'une certaine manière, on se relie à une forme de mobilité interne du corps qui quand on est en lien avec cette mobilité interne, eh ben, on est plus présent, on habite mieux son corps, on se sent mieux être en soi. Et donc, au début, c'était pour soulager les douleurs, mais au bout d'un moment, il a vraiment déployé une méthode en parallèle de la fasciathérapie, hein, qu'il a appelée la somatopsychopédagogie, pour vraiment une pédagogie pour mieux percevoir son corps, pour acquérir de nouvelles compétences intérieures, quelque part. Donc, c'est sur cette orientation-là que je travaille avec les fascias, parce que finalement, il y a plein de manières de travailler avec les fascias.
Moi, je trouve ça magnifique, parce que justement, Maître Louis Han nous dit que cela qui perçoit est notre vraie nature. Et tu as parlé de perception, de percevoir, d'être. Et en fait, c'est rejoindre notre vraie nature.
Ouais, ben ça... Plus ça va et plus je me rends compte que quand je suis en perception de ce qui se joue en moi, eh ben je peux aussi percevoir qu'il y a un degré d'observateur quelque part qui est là et qui voit tout ça. Tant que je suis embarquée dans le mouvement et uniquement dans le résultat du mouvement et uniquement dans ce que j'ai envie de faire, c'est difficile d'être en collaboration,
oui.
et surtout de goûter ce qui se passe, quoi. Et puis d'être en lien avec cet espace-là qui est même au-delà de la perception, j'ai envie de dire.
Donc, quelque part, quand tu poses les gestes, c'est pour la beauté du geste et c'est pas pour le résultat.
C'est pour, la beauté pas extérieure, tu vois, c'est pas le rendu qui compte. Qu'est-ce que ça me fait de faire ce geste? Comment je suis avec? Comment je me perçois de le faire? Qui suis-je quand je suis en train de le faire, par exemple? Tu vois, ça amène à toutes ces questions-là, finalement.
D'où cette discussion que tu avais lancée, je me souviens, sur notre collectif We Care, We Are, où tu avais parlé de ce thème qui m'avait bouleversé, de ralentir. Ralentir pour percevoir.
Ouais. Alors pour moi, ralentir, c'est ce que j'ai découvert parce que j'étais pas forcément en facilité avec la lenteur. Parce que la lenteur, en fait, ça amène à sentir plein de choses, mais pas que du joyeux. Ça amène aussi à sentir nos freins, nos résistances, nos gènes. Mmh. Et c'est tellement plus facile de courir pour les éviter, ces sensations-là, que dans un premier temps, quand on n'est pas du tout habitué à ralentir et à prendre soin d'écouter ce qui se passe en soi, il y a beaucoup de gens qui fuient en fait, hein, qui disent, qui refusent d'aller rencontrer ça.
Quel est l'intérêt d'ailleurs ? Quel est l'intérêt d'aller le rencontrer ?
Bah parce qu'en fait, il n'y a pas que ça. Pour moi, c'est ça. C'est qu'il y a aussi une présence quand on est dans cette écoute lente. Il y a une présence qui permet que le mouvement soit habité. Donc oui, dans un premier temps, quand on n'est pas habitué, qu'on s'arrête. Au début, on peut sentir le flot d'agitation, et c'est ça qui fait peur. Mmh. Mais dès que ce flot il se calme un petit peu, en réalité, c'est tellement agréable de sentir qu'on est avec ce qui est en train de se passer. Et finalement, des démarches artistiques, des démarches de précision, quelqu'un qui est en train de faire, des trucs miniatures où il doit être très précis. Il est obligé d'être à 100% avec ce qu'il est en train de faire.
Complètement présent.
Il est beaucoup dans l'action, mais n'empêche, il doit être avec.
Il doit être avec, oui.
Et c'est ce être avec qui compte, en fait. Et il y a plein de manières d'être avec, avec soi, pendant qu'on est en train de faire les choses.
Et en même temps, et si tu veux bien, on y reviendra juste après la pause musicale, la première pause. Mais il y a aussi une différence entre ralentir, ressentir et contrôler. Ralentir pour contrôler.
Alors oui, ça c'est super intéressant parce que le problème du ralentissement, c'est que parfois au départ, on freine. En fait, on freine le mouvement, c'est-à-dire qu'on ralentit, mais pour mieux garder le contrôle, ouais, sur ce qui est en train de se passer. Mais ça, c'est pas du tout la même fluidité en fait.
Voilà, c'est ça.
Quand on fait des mouvements sensoriels, c'est assez lent pour sentir. Mais ça doit rester fluide, global, et ça permet de sentir autre chose. Par contre, quand on ralentit juste pour faire comme l'autre et qu'on n'est pas avec et que on est en ralentissement, en fait, freiné, ça devient lourd, pesant. Le mouvement, tu vois, il y a comme des accroches, ça fait tac, 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 tac.
Oui, c'est même
tout,
épuisant.
Léger. Mmh. Et oui, ça, c'est la vigilance. Parce qu'au départ, comme il y a beaucoup l'intention de bien faire, de faire comme on voit l'autre faire, et non pas comme on se sent en train d'être porté par nos mouvements intérieurs pour faire, on contrôle pour faire comme la tête croit qu'il devrait être fait. Et la tête, elle peut accompagner, mais si c'est elle qui prend le dessus, en fait, elle bloque la liberté de mouvement, en fait.
Et oui. Et justement, tu parlais d'intention et tu as choisi un titre de Grand Corps Malade qui parle justement de cette intention d'être un artiste. Mais quelle est l'intention qui est portée par cet élan, quoi ? C'est le chemin de traverse. Tu peux nous en parler ? Pourquoi ce choix ?
Alors, ce choix, il est... En fait, je cherchais un titre pour un truc que je voulais faire... Et c'était le mot chemin de traverse qui était venu. Et puis, j'ai regardé sur Internet. Alors, il y avait bien sûr chemin de traverse de Harry Potter. Mais je suis tombée sur ce titre. Et ça me parle énormément parce que, au-delà de la fascia, je me suis intéressée à des démarches de coaching, d'accompagnement. Et j'aime beaucoup les temps de transition. Je trouve que c'est des temps assez fascinants. Et dans cette chanson, pour moi, ça raconte ça. C'est les choix qu'on fait, les intentions qu'on porte et comment parfois ça nous emmène dans des chemins de traverse. Mmh. Pas tout à fait là où on avait décidé, justement. Et que Mais quand on est vraiment avec l'écoute de ce qui est bon pour soi, avec le discernement, bah, en fait, ça nous amène là où on doit être et pas là où on croyait que d'après des statistiques, ce serait bien d'être.
Oui, tout à fait. Et moi, je me suis bien reconnue hein, aussi hein, dans ce texte. Merci d'ailleurs pour cette découverte, chemin de traverse de Grand Corps Malade.
Pour rêver nos lendemains, on a pris d'autres chemins, on a pris d'autres chemins. Pour rêver nos lendemains, on a pris d'autres chemins, on a pris d'autres chemins.
À quel moment tu prends ta décision et c'est quoi qui fait pencher la balance? Pourquoi tu prends telle ou telle direction, celle de tes doutes ou celle de tes croyances? Est-ce ton idée ou celle du paternel quand tu te décides à prendre cette voie? Celle de tes rêves ou des remords éternels, alors cette fois c'est ton droit, c'est ton choix. Tu as décidé d'être un artiste, un choix subversif ou un choix tendance. Un mélange de confort et de prise de risque, une décision d'adulte, un rêve d'enfance. Un métier loin des modèles familiaux, est-ce une envie ou une envie de rébellion? Un métier loin des réveils matinaux, est-ce une fuite ou un vrai choix par passion? Tu as choisi la voie des marginaux, quitte à ce que l'entourage soit dérouté. La voie des atypiques, des originaux, tu marches en dehors des passages cloutés. Et si cette voie n'est pas des plus classiques, elle passe dans l'orage et sous les averses. Tu n'as pas écouté les mauvaises critiques, tu as choisi de prendre un chemin de traverse.
Pour rêver nos lendemains, on a pris d'autres chemins. On a pris d'autres chemins. Pour rêver nos lendemains, on a pris d'autres chemins. On a pris d'autres chemins.
T'as choisi un métier qu'on n'apprend pas au collège. T'as ouvert la porte aux envies qui se taisent. Persuadé que ton audace te protège, t'as décidé d'écrire ta propre hypothèse. Alors tu as pris un chemin de traverse, la voie des durs, la voie des courageux. La voie du pari, pas celle de la sagesse, mais peut-être aussi la voie des peureux. Peur de la routine d'une route sans relief, peur de trop d'années coincées dans les livres. Peur des horaires fixes d'un bureau ou d'un chef, peur d'avoir peur d'exister sans vivre. Un chemin de traverse est un raccourci, une voie parallèle, une route sans panneau. Un raccourci vers quoi? Vers tes envies, vers l'argent ou peut-être vers le chaos. Et si être artiste est un art de vivre, si tu ne réussis pas, c'est pas grave. C'est la beauté du geste qui nourrit et enivre, que tu chantes au zénith ou dans ta cave. Mais si ton art séduit et que les gens t'aiment, attention à l'ego qui te renverse. Si tu te sens enrôlé par le système, n'oublie pas que c'était juste un chemin de traverse.
Pour rêver nos lendemains, on a pris d'autres chemins.
D'entendre Chemin de traverse de Grand Corps Malade, vous êtes sur IDFM, la radio de toutes les générations, et vous écoutez votre émission Les Passages, entendez-le comme vous le voulez. Je m'appelle Céline Dupuis et je suis en compagnie d'Agnès Olivier. Le sujet d'aujourd'hui est ralentir pour ressentir. Et nous étions justement, Agnès, en discussion sur ralentir, mais sans chercher à contrôler, sans chercher finalement à obtenir un résultat, sans avoir un but, ralentir pour être. Est-ce que je le dis correctement?
Ouais, moi j'aime bien quand tu dis ça. C'est vrai que je vais rarement jusqu'à dire ralentir pour être, mais j'aime beaucoup cette idée. Et en fait, ce qui me vient, c'est l'idée que En fait, quand on regarde la nature, il y a plein de rythmes. Mais il y a des rythmes très lents, les rythmes, un arbre qui pousse, ça se voit pas, mais ça, c'est perpétuel, en fait. Dans notre corps aussi, quand ça cicatrise une partie du corps, ça prend beaucoup de temps. Enfin, ça prend beaucoup de temps. Souvent, il y a beaucoup d'impatience. C'est pour ça que ça bouge. On a l'impression que ça prend du temps. Ça prend le temps juste, ça prend le temps de la nature, en fait. Et si on laisse faire ça, si on freine pas, en fait, c'est un rythme normal. C'est comme une saison. C'est normal, entre guillemets. Mais je pense que c'est l'impatience qui crée de l'impossibilité à ralentir sans vouloir contrôler, parce qu'on voudrait aller plus vite, on voudrait que le résultat arrive plus tôt. Et quand il y a trop d'attente, trop d'impatience, un résultat trop précis, alors être avec ce qui est en train de se vivre là dans l'instant, ben, c'est pas aisé en fait. Parce qu'on est déjà dans notre intention au-delà de ce qui est en train de se vivre. On est dans le futur, finalement, dans notre espoir. Ou dans la déception que ce ne soit pas comme on voudrait. Enfin, mais on n'est pas là.
Il y a un sutra, d'ailleurs, qui nous parle de ça, qui dit « Par la contemplation vient le bonheur suprême. » C'est vrai que je pense que contempler peut pas se faire dans la projection, c'est impossible. La projection est une pensée. La contemplation, c'est être avec, comme tu disais tout à l'heure.
Ouais.
Mais le mental veut toujours résister et du coup ça persiste.
Le mental, il est aussi fait pour organiser, donc il est très bon pour ça. Puis on l'a bien encouragé à ça individuellement et sociétalement, donc il fait son job quelque part, il planifie, donc il regarde plus loin, sauf qu'en fait il verra jamais qui est, on va dire, le futur, parce que il est juste le planificateur. Mais contempler, c'est lâcher, voilà, tout intérêt de planification. C'est juste goûter, être avec. C'est même presque l'ultime ralentissement, quoi. C'est là où on est. Il n'y a même plus de rythme. C'est là, quoi.
Mais alors, du coup, je vais aller plus loin. Quand on vit une situation absolument horrible, j'imagine, j'ai entendu l'autre jour le témoignage d'une de nos collègues sur l'INRES, l'Institut National des Recherches sur les Expériences Extraordinaires, et elle a subi un viol à l'âge de 8 ans c'était un viol collectif de petites filles au centre de loisirs, filmé et tout, hein. C'était donc une horreur totale. Et en fait, évidemment, il a fallu qu'elle fasse tout un chemin thérapeutique pour que son mental comprenne que c'était fini, que voilà, la situation est passée et que c'est fini. Et ça, elle l'explique très bien, mais surtout, en fait, elle dit qu'elle a eu, entre guillemets, hein, beaucoup de guillemets, un cadeau qui a été qu'en fait, elle a été obligée de lâcher. Et elle est sortie comme de son corps, finalement, pour être dans l'être. Et qu'elle a pu goûter à quel point nous sommes amour. Et je me dis, dans des situations comme ça, peut-on continuer de ressentir ? Peut-on continuer cette contemplation ? C'est horrible, ce que je dis. Hein.
Alors là, c'est la question fou.
Voilà, la question horrible.
Je ne sais pas, en fait. Je pense qu'il n'y a pas de généralité.
C'est pour ça qu'elle a été sauvée, je pense, en sortant de son corps.
Ouais, alors par contre, il y a en psychologie, dont je suis pas experte du tout, des choses qui disent qu'il y a des dissociations psychiques hyper, parce que le psychisme et le corps sont quand même assez doués pour protéger l'être et sa psyché. En se dissociant, des dissociations qui amènent à se relier à l'amour. Je pense que c'est rare, c'est extraordinaire, mais moi j'ai rare, peut-être pas, je sais pas quelles sont les proportions d'ailleurs, mais On entend plutôt souvent des dissociations qui ensuite laissent des traces au niveau du psychisme, de blessures en fait.
Oui.
Et en effet, un travail thérapeutique est quand même nécessaire et plusieurs choses. Dans le corps, il reste des traces aussi parce que des énergies, il y a plein d'éléments qui restent. Là, moi, les très très gros traumas, c'est un truc où je reste très vigilante à savoir ce qui est bon pour l'autre. Mmh. Parce que c'est tellement un chemin particulier à prendre à tous nos traumas. Mais il y a des traumas qui sont quand même... alors lui, c'est pas en mettre des intensités, parce qu'il y a des gens qui vivent des traumatismes. Pour eux, c'est le pire du pire du pire. On dit que cette femme, elle a réussi à transcender quelque chose dans quelque chose que on juge souvent le pire du pire du pire. Donc je mets pas de jugement sur l'horreur d'une intensité où chacun vit à sa hauteur, mais j'ai envie de dire chacun a son chemin pour aller traverser et se reconstruire et créer la résilience au niveau psychique. Et puis après, il y a des démarches spirituelles où là, pareil, moi j'ai mes avis, mais j'ai pas non plus de spécialité là-dedans. Voilà, tout le monde a son chemin initiatique quelque part pour être. Il y a des chemins où moi je comprends pas, je cherche pas à comprendre, je me dis voilà, faites au mieux, faites comme vous pouvez. Juste être en compassion et en amour pour la personne là où elle est, quoi. Mais c'est vrai que c'est là, être en pleine présence au milieu de l'horreur, je sais pas si c'est possible. Vraiment, j'en ai aucune idée.
Oui. Et c'est peut-être pas ce qui se joue à ce moment-là, d'ailleurs.
Oui, en l'occurrence, pour elle, ça a été d'aller rencontrer une autre dimension, finalement. Donc,
oui.
Et c'était pas par la contemplation et l'accueil inconditionnel de ce qui se passait. Je sais même pas si c'est possible. Parce qu'à un moment, elle a découvert d'autres dimensions. Et c'est assez magique que cette dimension, elle est reconnectée à l'amour, quoi.
Oui. Mais comme tu dis, c'est aussi extraordinaire. Ça sort de l'ordinaire.
Oui, oui. Et c'est là où moi j'ai une vigilance pour tous ceux qui vivent des choses dures. Surtout jamais se comparer. Parce que ce qui se passe pour cette femme, c'est son chemin, c'est sa manière de rencontrer des éléments. Et après, qu'est-ce qu'elle en fait ? Parce que rencontrer aussi des grandes ouvertures de conscience. Il y a des gens qui sont dans des accidents, ont eu ça, mais après, il faut le faire rentrer dans sa vie. Mm. Et ça, c'est une autre démarche, je pense, qui n'est pas toujours aisée non plus, d'avoir accès à une dimension extra-humaine, transcendantale. Et puis ensuite, comment je fais pour continuer dans ma vie humaine avec ça, quoi. Mm. Moi, tous ces chemins-là, je les trouve fascinants. Et en même temps, je vois mes limites, mes inconsciences, entre guillemets, pour savoir comment faire. Par contre, je crois que le corps, que prendre le temps d'écouter ce qui est là, aide à incarner un peu mieux ce qu'on est devenu de tout ça. Mais c'est comme si c'était des dimensions différentes qui doivent à un moment se relier, se reconnaître, s'apprivoiser.
Et du coup, c'est pour ça que tu fais tout ce travail aussi pour les transitions de vie, parce que le corps parle.
Moi, j'adore l'idée d'incarner ce qu'on est devenu finalement quand on est sur des démarches de conscience et qu'on accède à des nouvelles compréhensions sur la vie, une nouvelle vision des choses. Moi-même et puis des personnes autour de moi, j'ai vu que c'était pas toujours facile de les mettre dans une forme, dans une activité, dans une manière d'offrir ça au monde qui soit rentable, je veux dire, qui permette de vivre aussi dans les conditions de vie du monde, quoi, telles que les règles sont aujourd'hui. Et donc c'est ça que je trouve assez intéressant dans les transitions, c'est comment on se renouvelle et comment, de ce renouvellement, on l'apporte au monde et on l'offre, on offre sa singularité, finalement, son unicité, mais en, en étant relié avec le collectif, avec sans se couper de l'universel, quoi.
Et il en faut bien du courage. On reviendra sur cette notion de ralentir et que ça demande du courage. Juste après la pause, tu as choisi Inanna de Armand Amar. Peux-tu nous dire pourquoi ?
Alors, Armand Amar, j'aime beaucoup. Je l'ai découvert grâce au fait qu'il faisait la musique de film du film d'Avie et de Vien, que je trouve extrêmement touchant parmi les chemins de traversée de vie. Je pense que c'est fictionnel, mais quand même qui sont poignants. Cette histoire me touchait énormément. Et sa musique est très méditative. Mmh. Et il a écrit beaucoup, beaucoup de musiques différentes. Celle-là, quand je suis tombée dessus, j'ai trouvé qu'elle était à la fois porteur de plusieurs cadences, à la fois lent et en même temps, il y avait du mouvement. Donc j'aimais bien, en fait, ces différentes cadences.
Alors laissons-nous porter par Inanna de Armand Amar. D'entendre Armand Amar dans Inanna et vous êtes sur IDFM, la radio de toutes les générations. Vous écoutez votre émission Les Passages, entendez-le comme vous le voulez. Je m'appelle Céline Dupuis et je suis aujourd'hui en compagnie d'Agnès Olivier. Notre sujet du jour est ralentir pour ressentir. Agnès, nous parlions justement de transition et du courage qu'il fallait pour faire ces transitions de vie. Et pourquoi je parle de courage ? Parce que d'un coup, quand j'entends courage, j'entends que c'est le cœur. C'est le cœur qui est en action et ce n'est plus le mental qui veut, lui, plutôt organiser et contrôler. Est-ce que tu pourrais nous parler justement de comment accéder à ce courage ?
Moi j'aime bien une phrase, quand j'entends courage, j'entends souvent cette phrase qui a été reprise par les groupes des Alcooliques Anonymes et consorts, mon Dieu ou puissance supérieure ou la vie, comme on veut en fait dans la définition de cet espace infini qui nous dépasse. Donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Et je dis ça parce que je pense que mettre le courage, ça doit être aussi au bon endroit, c'est-à-dire au moment où on est en mesure de passer à l'action, en mesure de poser un acte, et parfois l'acte c'est de s'arrêter, parfois l'acte c'est de se taire, de faire silence, d'écouter. Mais dans un premier temps, c'est de qu'est-ce qui m'appartient. Et qu'est-ce que je peux mettre en mouvement dans ce qui est en train de se vivre. Et là, le courage, c'est d'y aller vraiment, quoi. C'est pas toujours évident d'y aller vraiment. Il peut y avoir là aussi des freins, là aussi la tête qui commence à évaluer. Les conséquences, donc oui, mais si je fais ça, il va se passer ça, ta. Or, ce futur, il ne se construit que quand on le met en mouvement. Donc, cette tête, elle est juste pour de la logistique. Et c'est intéressant quand on va pas faire passer un camion dans une tête d'aiguille, quoi. Ça passe pas. Mais après, une fois que la tête, elle a observé que ça peut le faire, c'est y aller et là étonnamment c'est percevoir ce qui se passe mais pas de s'arrêter à ce qui se passe en soi quoi parce qu'il y a un moment où quand on est porté par le mouvement c'est extraordinaire donc parfois on se dit tiens j'ai envie de suivre les élans que quand tout est porteur et qu'il n'y a pas du tout de frein. Il y a un moment où parfois je peux sentir que là le courage il est d'y aller même quand je sens le frein, la peur beaucoup c'est souvent des peurs c'est important d'aller quand même quoi parce que derrière en fait c'est là où je dois être c'est ça que je dois ressentir c'est ça que je dois vivre c'est cette rencontre là avec l'autre avec moi avec la vie où je me sens attendue, quoi.
Et oui, et répondre à cet élan finalement ardent, ce feu qui brûle en nous et qui ne veut que se manifester, c'est un peu ça ?
C'est ça. Et c'est là où parfois ça passe par ne plus trop écouter les sensations du corps qui appuie sur la pédale de frein en même temps que l'accélérateur est appuyé.
Et, oui.
Et là,
c'est ressentir le frein, ne pas chercher à s'en soulager en fuyant, c'est ça ? C'est plus traverser en fait la peur, finalement.
C'est ça. Et puis se relier peut-être aux deux dynamiques, c'est-à-dire à l'élan ardent, parce que c'est lui qui porte. Pourquoi ? En fait, dans un pourquoi, mais dans une intention profonde qui nous porte, et puis d'accepter, en effet, de ressentir ces freins, mais comme tu dis, sans chercher à les soulager par l'évitement. On étouffe, en fait, les parties de soi qui ont envie de s'exprimer, et qui n'auront pas eu l'occasion à ce moment-là, et qui perdent, en fait, je pense qu'il y a ce truc, on perd aussi la capacité à sentir que ces peurs, elles ne sont pas bien graves, si on ne les a pas une ou deux fois traversées.
Oui.
en disant « Ah bah ouais, j'ai peur, mais là, ah bah j'y vais quand même. » Et puis « Ah bah en fait, c'était pas... ça va. Je peux gérer ce niveau de peur, entre guillemets. Ouais, » il fait partie du jeu, quoi.
Mais du coup, on voit comme une illusion, en fait, comme s'il y avait des filtres devant nos yeux qui nous ont fait croire que c'était dangereux, mais ça l'était pas.
C'est ça. Et c'est là où on entend dans beaucoup d'enseignements que la perception n'est pas à vraiment écouter. Et oui et non. Parce qu'en effet, parfois, c'est une illusion, comme tu dis. C'est un genre de truc de fumée là, qui nous empêche de percevoir qu'au fond, derrière, il y a un vrai élan.
Et oui,
mais si faut suivre les deux. Parfois on se trompe, on s'est piégé par le truc de fumée, et après coup on se dit ah ben, finalement, donc on apprend en fait, c'est là où le discernement se fait.
Et c'est vrai que le fait de percevoir à la fois bah, d'abord l'ombre, enfin le frein, lui permet de se dissiper pour peu qu'on lui donne pas de raison quelque part.
C'est là où il demande à être accueilli, en effet.
Si on ne le perçoit pas, on ne peut pas l'accueillir.
Ouais. Donc, le percevoir, l'accueillir, mais pas lui donner raison. Mmh. Pas lui dire, oui, tu as bien raison, allons nous planquer, ça sera beaucoup mieux.
Et oui, mais c'est vraiment ça. Tout à l'heure, justement, tu disais le mot acceptation, et on en parlait tout à l'heure pendant la musique de Armand Amar, toutes les deux. Ce phénomène d'acceptation, je dis souvent, moi, à mes élèves, on ne peut lâcher que ce qu'on a accepté. On nous dit souvent, il faut lâcher prise. Comment lâcher ce qu'on n'a pas accepté, finalement? Et comment accepter l'inacceptable? Enfin, on en revient toujours au même truc, quoi.
Bah déjà, lâcher ce qu'on n'a pas accepté, avant de passer à l'inacceptable, accepter, c'est donner de l'amour à ce qui est. Et puis, c'est aussi, si on prend le côté hyper raisonnable, c'est être avec ce qui est, c'est comme ça. C'est d'arrêter de vouloir se battre contre une situation qui est là. Ok, j'ai mal, ok, je peux pas faire ça, ok, je voudrais ça, mais c'est pas là. C'est là, point. Aujourd'hui, c'est comme ça. Accepter, c'est juste ça. Accueillir, je dirais, c'est un peu l'étape d'après, c'est... En plus, je mets d'amour, quoi. j'arrête de me taper dessus, j'arrête de m'en vouloir, de pas avoir fait les bons choix, j'arrête tous ces trucs-là qui, là aussi, a accepté les choix qu'on a fait au moment où on a pu les faire parce que c'était les meilleurs choix qu'on pouvait faire à ces moments-là. Après coup, on a gagné en ressources, on a gagné en qualité de conscience. Donc, on se dit, ah oui, ça aurait dû être autrement. Mais à ce moment-là, c'était comme ça. On avait ça comme capacité d'observation, énergie disponible. Donc, on a fait comme on pouvait. Donc, accepter aussi ces choix, ces possibilités, ces impossibilités. Après, accepter l'inacceptable, alors, il y a, c'est une part de jugement quand on parle d'inacceptable.
Oui.
Et je pense qu'on sera tous d'accord qu'il y a quand même des trucs où on dit que l'humain il est capable de trucs inacceptables. Là, pour moi, c'est des espaces qui me dépassent de qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, qu'est-ce qui est possible. Je crois, et comme je disais à l'intermédiaire, c'est pas le moment d'acceptation immédiate, c'est de faire au mieux à ce moment-là, de s'entourer de soutien après coup. Quand on perd quelqu'un très proche, par exemple, un deuil, quelque chose qui est à la fois inacceptable et très courant, qui est donc parce qu'on a tous un jour cette possibilité-là d'avoir quelqu'un très très proche qui décède, à ce moment-là, c'est insupportable. Et être avec cette souffrance, parfois, c'est possible quand on s'est préparé à ça. Parfois, c'est un peu trop, quoi. Et trouver ce qui nous fait du bien pour faire au mieux. Puis progressivement, quand on décide qu'on n'a pas envie que ça nous empêche de vivre, alors y a un moment où la vie, on va chercher des trucs de plus en plus qui nous amènent à accueillir, à traverser, et puis il y a un moment où on est prêt à traverser et à accepter l'intensité de la douleur et tout ça.
Et je trouve que c'est
important pour tout.
C'est là que ça ralentit. Tu vois, c'est à ce moment où on est prêt à accepter, ce que je me vois, moi, par exemple, au décès de maman. D'abord, il y avait plein de choses à faire et ça m'arrangeait bien. Oui. J'étais dans l'action, vite. Et puis tout à coup, j'ai été prête. Et là, tout s'est ralenti. J'avais vraiment besoin de ce ralentissement.
Oui, c'est ça. C'est qu'il y a aussi que parfois, les conditions autour de nous, elles nous offrent les occasions pour que ce soit le bon moment. C'est très délicat, très épidermique au départ du décès. Soit on fuit, soit on est débordé par l'émotionnel. Et donc, il y a tous les trucs administratifs, rangés, enfin... L'autre est très présent, en fait. Il n'est pas encore parti, il est là, en fait. Il est là par tout ce qu'il y a à faire. Et moi, j'avais beaucoup aimé une conférence de Christophe Fauré, je crois, qui parle beaucoup de ce sujet-là et qui disait que parfois, c'est autour d'un an et demi, deux ans, qu'il y a un moment encore un peu plus délicat, c'est que c'est à distance, mais c'est encore très présent. Et il y a des temps de déprime qui ne sont pas des vraies dépressions, qui sont des moments où l'énergie psychique il décroît, quoi. Il est un peu. Ça peut être une occasion d'acceptation quand c'est possible ou un peu plus tard. Mais c'est pas linéaire, ces trucs-là. Et je suis pas la spécialiste du deuil, hein, mais voilà, ça fait partie des choses qui sont souvent vécues comme difficilement acceptables et en même temps tellement courantes. Après, les autres sujets, comme on a abordé tout à l'heure, tellement des trucs. Complexe que là, c'est un autre niveau de considération inacceptable, mais comme les guerres, comme tous ces trucs-là, quoi.
Oui, tout à fait. Et tu as choisi un titre pour cette dernière pause musicale qui est plutôt joyeux, même d'ailleurs, on parle de guerre. Un titre de Coldplay, Adventure of a Lifetime. Alors, le premier qui se moque de mon accent, il passe direct par la fenêtre. Je vois Francky qui rigole. Tu peux nous dire pourquoi tu as choisi ce titre, s'il te plaît, Anne?
Parce que je vais pas faire mieux dans l'accent, donc ce titre ça ira très bien pour le nommer. Parce que déjà j'aime bien Coldplay, parce que justement j'avais aussi envie de dire que la vie c'est plein de rythmes, hein, c'est plein de mouvements. Et que c'est une belle aventure, quoi. Donc j'aimais beaucoup le titre. Et puis voilà, globalement, les paroles sont un peu dans cette direction-là, quoi. Qu'on est sur une aventure dans la vie, quoi. Donc, ouais, mais j'aime bien voir ça. Cet œil-là, ça donne un petit côté voyage, initiation, découverte, rencontre. Un peu comme si on partait chercher un trésor, quoi. Et finalement, il y en a plein, certainement, de trésors.
Bon, bah alors, on se retrouve juste après ce beau voyage. Venons d'entendre un titre de Coldplay, Adventure of a Lifetime. Vous êtes sur IDFM, la radio de toutes les générations. Vous écoutez votre émission Les Passages, entendez-le comme vous le voulez. Je m'appelle Céline Dupuis et je suis en compagnie aujourd'hui d'Agnès Olivier, qui est fasciathérapeute. Et nous, notre sujet du jour est ralentir pour ressentir. Alors Agnès, s'il te plaît, qu'est-ce que tu voudrais encore nous dire, s'il te plaît, sur cette évidence pour toi de ralentir, peut-être pour transitionner, pour accueillir le nouveau dans la vie? Peux-tu nous en parler?
Ouais, moi en fait, j'ai envie de dire que c'est comme une danse. C'est de se mettre à la bonne cadence et que nos cadences actuelles sociétales encouragent à aller toujours plus vite. On aime avoir des réseaux, par exemple, informatiques qui vont super vite. Mais qu'en fait, pour vraiment être au bon moment, au bon endroit, il faut savoir danser avec les différents rythmes. Et souvent, ça demande de ralentir, parce qu'on va trop vite globalement, j'ai envie de dire, pour beaucoup de personnes en tout cas. Mais ensuite, c'est pas ralentir pour rester un escargot, c'est jouer avec des rythmes différents, c'est faire varier les cadences, c'est savoir trouver bien sentir des séquences. Il y a des séquences un peu comme la marée, quand on regarde une marée, il y a à la fois ça va très lent, et puis en même temps, chaque vague, elles ont leur rythme, donc il y a plein de rythmes en même temps. Et c'est juste être conscient que pour percevoir, ça aide vraiment. Pour accueillir et accepter, ça aide vraiment. Qui sont quand même deux éléments extrêmement importants quand on veut commencer à prendre soin de soi, j'ai envie de dire.
Oui.
Tout simplement. Pour son corps ou pour sa tête ou pour ses projets. Et ensuite, aussi quand on veut aussi être plus relié à des questions, j'aime presque en disant même écologiques, c'est-à-dire relié au cycle naturel du vivant. Apprendre que dans notre corps il y a des rythmes naturels et que ces rythmes ils méritent vraiment d'être progressivement de plus en plus perçus pour pouvoir se laisser porter par ça, ça devient assez logique qu'on est plus conscient des différentes énergies, des saisons, des choses comme ça. Donc on va pas avoir envie d'aller au même rythme tout le temps, de faire les mêmes choses tout le temps, de la même manière. Ça va s'ajuster au bout d'un moment. On n'aura même plus besoin d'y réfléchir. Et comme au départ, on peut être un petit peu cadencé par des objectifs externes à soi, là, c'est, j'ai envie de dire, pour moi, indispensable de ralentir. Même si, voilà, j'entends bien que parfois, ça fait un peu peur, comme dynamique. Mais elle est en fait très joyeuse dès qu'on s'y glisse. Et ben, en fait, c'est hyper agréable. Elle est, c'est plus voluptueux, c'est plus sensuel. De bouger, on sent plus de choses, quoi, c'est cool.
Mais oui, et c'est tellement paisible aussi.
Ouais.
Et comme tu dis, ça veut pas dire être un escargot du tout. C'est l'action. Exactement. Est plus juste. Et on se sent plus en. Tu parlais tout à l'heure comme une danse, et c'est aussi plus une symphonie avec les autres, avec la nature, comme tu dis. Tout est plus harmonieux.
Exactement. Ouais.
Mais pour ça, voilà, de revenir à la perception. Je trouve ce mot magnifique parce que c'est vraiment cette rejonction avec ce qui nous dépasse. Si on peut dire ainsi. Comment on fait pour te joindre, Agnès, Agnès Olivier?
Oui, alors, mon nom de famille a deux L. Donc moi, mon site internet, c'est AG, comme dit puis mon prénom, et ensuite Olivier, O, deux L, L-L-I-V-I-E-R.fr. Dessus, vous avez accès aussi à Doctolib, il y a un lien sur Doctolib, vous pouvez me trouver sur Doctolib parce que je suis encore kinésithérapeute là actuellement, je suis sur Saint-Nazaire, ensuite tu vas aller sur la Beauce, je suis dans cette région-là quoi actuellement. Et puis, donc la fascia c'est quand même plutôt en présentiel, mais les démarches d'accompagnement ça peut aussi se faire en Zoom, on peut même mettre en mouvement le corps à distance, bien sûr c'est pas touché, mais c'est avec une invitation, donc comme une forme d'exploration des projets ou de là où on en est dans sa vie en se mettant en mouvement dans son corps pour vraiment pouvoir questionner ces dynamiques en étant en lien avec le corps. C'est pour ça que je parle d'alliance avec le corps dans mon site. Donc voilà comment me joindre.
Oui, parce que j'ai vu aussi sur ton site que tu proposes même des séances collectives sur Internet.
Alors, pour le moment, c'est pas encore totalement présent, parce que j'attends un petit peu qu'il y ait plusieurs personnes qui s'inscrivent, mais avec, ouais, c'est ce que j'ai envie de faire pour vraiment faciliter par là la gymnastique sensorielle où il y a des séances de groupe en présentiel, mais par internet pour avec l'idée d'habiter son corps en fait. Et donc d'habiter ses intentions et là où on en est dans sa vie à ce moment-là, quoi.
Magnifique. Moi, j'ai envie de te dire d'infinis merci pour ces partages, Agnès. Donc je rappelle Agnès Olivier et ton site internet agolivier.fr. Merci, merci beaucoup Agnès.
Merci infiniment.
Et puis merci à tous infiniment aussi pour votre fidélité, chères auditrices et chers auditeurs. Merci pour votre fidélité à cette émission et à votre radio IDFM. Merci aussi à notre technicien aujourd'hui, c'est Francky qui est aux manettes. Et je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver tous les podcasts de cette émission, les passages, entendez-le comme vous le voulez, sur le site idfm98.fr. Pour nous contacter, l'adresse mail est contact@idfmradio.fr. Le numéro de téléphone est 01 34 12 12 22. Je vous invite à rester à l'écoute de notre antenne sur la bande FM 98.0 FM et maintenant en DAB+. Vous pourrez suivre l'émission Je prends ma vie en main grâce à l'hypnose et au coaching de mon collègue Shlomi Lévy dès demain dimanche à midi. Quant à moi, je vous retrouve samedi 3 décembre à midi. Je serai en compagnie de Catherine Didelot Petitpas, formatrice en soins énergétiques de la Trame. Nous parlerons d'alchimie. Alors, à très vite pour votre émission Les Passages. Entendez-le comme vous le voulez, votre rendez-vous mensuel santé et sérénité sur IDFM, la radio qui nous rassemble.